Bonjour à tous. Vous voyez qu'on a tenté de nous réduire au silence, mais ça n'a pas fonctionné pour cette 15e édition. Je suis très heureux de vous retrouver. On va devoir être très rapide, puisqu'on a pris du retard. Et on va lancer tout de suite les micro-trottoirs. On a fait, comme chaque année, des micro-trottoirs sur un certain nombre d'impression des Français sur l'inflation, sur l'Europe, sur le climat, sur la confiance dans les institutions. Donc on lance le premier micro-trottoir et puis je vous présenterai en même temps nos intervenants au fur et à mesure, ensuite, quand je leur poserai des questions. Allons-y pour le premier micro-trottoir.
Sur le café, sur les pâtes,
les fast-foods,
l'alimentation,
l'huile,
l'électricité à la maison, le chauffage,
les transports en commun,
l'essence,
sur le médico-social,
la facture de gaz aussi.
Oui, je regarde les prix maintenant.
On limite le chauffage.
On achète moins.
Par exemple, le poisson, des choses comme ça. On a un peu laissé de côté parce que c'est trop cher.
Je compare les prix entre les différents magasins.
Non, je n'épargne plus, hein, je ne peux pas.
La viande, c'est plutôt une fois tous les 15 jours qu'une fois toutes les semaines.
Je consomme un petit peu moins, ça c'est sûr.
Ça demande beaucoup de restrictions.
Pour certains, je pense aux retraités ou autres, ça peut être beaucoup plus difficile.
Si j'arrive pas à me nourrir, à me loger, ça serait la pire situation que je peux imaginer.
Ça va peut-être nous empêcher de continuer d'aller à ce qu'on aime faire en fait.
Devoir perpétuellement renégocier des contrats d'énergie qui changent chaque année et à chaque fois toujours à la hausse.
On aurait pu beaucoup les moyens d'acheter beaucoup de choses, surtout pour les familles nombreuses.
Comme les prix ils augmentent et que les salaires ils augmentent pas, il y a une difficulté à vivre avec un salaire moyen, un salaire bas.
L'Europe, est-ce qu'il faut essayer d'avoir une solidarité entre États ?
Contre l'inflation, contre la guerre en Ukraine.
Il faut vraiment qu'on soit soudés quand même.
C'est quelque chose d'incroyable pour tous les étudiants et étudiantes.
C'est une force aujourd'hui vis-à-vis des grandes puissances comme les États-Unis.
C'est le sentiment d'appartenir à une collectivité, c'est hyper important aujourd'hui.
Pour faire face à ces crises qui arrivent très souvent.
Le principal succès, c'est d'avoir transcendé les frontières et que ça nous a permis de peut-être penser que nous étions aussi des Européens.
On peut se déplacer et travailler un peu partout.
L'échange entre les différents pays, les étudiants, les Erasmus.
Au niveau commercial, le libre-échange.
Comment elle a géré le Covid ?
Gérer son tourisme.
L'euro, je pense que c'est vraiment un grand succès, surtout sur le taux de régulation, sur les taux de change.
C'est tellement d'autres choses, mais c'est surtout l'ouverture vers l'autre, et c'est important.
Le plus gros défi, c'est l'écologie.
Bah déjà, faut arrêter la pollution. Ça, c'est très grave.
Que les gens ils puissent vivre mieux avec moins d'argent.
La crise de la migration qu'on va subir à cause de la crise climatique.
Faut qu'on avance sur les nouvelles technologies.
Une politique qui soit plus globale et plus faite en fonction des intérêts de chaque État.
Toutes les grandes problématiques qui sont en train de se poser, donc l'écologie, l'inflation et tout ça.
S'adapter au progrès, quoi.
Avoir un avenir pour les jeunes.
Alors nous venons de l'entendre dans ce micro-trottoir, l'inflation, ça touche directement les Françaises et les Français. Aujourd'hui, l'inflation, concrètement, c'est la hausse des prix de l'alimentation et la hausse des prix de l'énergie. Et l'autre problème de l'inflation, c'est aussi que ça oblige tout le monde à regarder en permanence les étiquettes. Si on négocie son salaire, de regarder l'indice des prix. Quand l'entreprise aussi négocie chaque année sur les salaires, elle doit en tenir compte, alors qu'on était dans un monde jusqu'ici quand il n'y avait pas d'inflation où personne ne regardait l'indice des prix. Et puis, autre problème, c'est que l'inflation, finalement, c'est comme une épidémie, c'est-à-dire que si on la laisse se propager, elle devient toujours de plus en plus importante. Et notre rôle à nous, Banque centrale, c'est quoi ? C'est de casser cette chaîne de contamination. Et donc, notre objectif, c'est de ramener l'inflation à 2%. L'Europe, concrètement, c'est quoi pour les Français ? C'est trois choses. Premièrement, c'est la paix, et malheureusement, on le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Deuxième élément, c'est la solidarité entre les États membres. Et on a vu aussi le caractère crucial de cette solidarité pendant la crise Covid. Troisième élément, c'est la libre circulation des personnes, des biens. On a vu aussi que restaurer les frontières, là, dans le cas du Brexit, ça soulevait des tas de problèmes et finalement, ce n'était pas bon pour l'économie. Et l'Europe, aujourd'hui, surtout, c'est le moyen, le meilleur moyen en se mettant ensemble pour affronter trois grands défis. Premier défi, c'est que dans un monde qui, malheureusement, est redevenu aujourd'hui plus fragmenté, avec des grands blocs, avec les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, on a besoin d'une Europe unie et forte. Deuxième défi, c'est la transition écologique, et là l'Europe a d'ailleurs un rôle de leader au niveau mondial. Et troisième chose, c'est la préparation de l'économie numérique, et là-dessus aussi, l'Europe a des plans, et c'est en étant ensemble qu'on sera plus fort pour préparer ces grands défis.
Oui, sur l'inflation, je crois qu'il faut faire très attention de distinguer entre deux types d'inflation. La première inflation, c'est l'inflation qui est un peu exogène, importée, dont on fait les frais, bien sûr. On a tous à l'esprit le prix du gaz ou du pétrole, mais aussi d'autres choses, la nourriture, les problèmes avec les chaînes d'approvisionnement, la réduction de l'activité en Chine, aux États-Unis, toutes ces choses-là qui font que y a des choses qui sont plus chères parce qu'il y a une question d'offre et de demande. Donc, il va falloir réduire notre consommation automatiquement. On peut être dans le déni, penser qu'on... Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on espère juste que ça sera temporaire. Donc ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire contre ça, à part faire attention, effectivement, à protéger les populations les plus pauvres. Simplement, garder les prix constants, ce n'est pas totalement une solution, parce que ça encourage vraiment la consommation d'énergie fossile. Ceci dit, il y a d'autres formes d'inflation, et c'est celles-là sur lesquelles on peut agir. C'est un peu ce cercle vicieux qu'il peut y avoir, où il y a des anticipations qui se créent, les salaires augmentent en fonction de l'inflation, les prix augmentent parce que les salaires augmentent, etc. etc. Et dans une économie qui peut être en surchauffe, ça s'est passé effectivement parce qu'il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été apportées pendant la Covid et même avant. Il y a eu aussi les plans de relance de Trump et Biden et toutes ces choses-là. Donc on a des situations, effectivement, on a un peu une surchauffe de l'économie. Et donc, là, il faut calmer un peu le jeu. Et c'est là que la politique monétaire peut jouer un rôle. Alors, il faut le faire très doucement parce qu'on ne veut pas totalement créer des récessions, mais essayer de calmer un peu le jeu pour essayer de bloquer l'inflation. Alors, juste un dernier point, quand même, quand je disais, il faut quand même qu'il y ait une certaine vérité des prix, parce que c'est vrai que si, effectivement, le gaz et le pétrole sont plus chers, il va falloir quand même réduire notre consommation. Et ça ne se passera pas du tout tant qu'on gardera les prix constants. Je disais, il faut aussi protéger les populations les plus défavorisées. C'est vrai que ce qu'on a fait jusqu'ici a quand même un avantage, c'est que ça limite l'inflation. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont indexées sur l'inflation, en particulier le SMIC. Et ça peut poser problème. Donc, on a un peu limité les anticipations inflationnistes en bloquant les prix de l'énergie. Mais il faut bien se rendre compte que si ça devait durer, ça sera un problème. On a un peu la question inverse de ce qui s'est passé les 25 dernières années, si vous voulez, parce que les 25 dernières années, on a eu un peu une désinflation. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, mais une des raisons, c'est aussi qu'on a bénéficié de prix très intéressants de pays comme la Chine. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui coûtaient moins cher. Et on en a bénéficié. On a augmenté notre consommation. Maintenant, on voit qu'il y a des choses qui vont coûter plus cher. Il va falloir diminuer un peu notre consommation. Il y avait déjà le climat, évidemment, qui était une bonne raison pour diminuer notre consommation. Mais maintenant, on a une double raison.
Merci beaucoup, Jean. Peut-être sur l'inflation, on va continuer avec André Ajos, donc, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, puisque finalement, on a aussi cette question, comment on peut accompagner les gens dans cette période où l'inflation s'accélère. Quel est le rôle de banques comme la Caisse d'épargne Rhône-Alpes?
Alors, c'est vrai, je me souviens, j'ai fait la séance d'ouverture il y a un an, ici même, et on a commencé à parler d'inflation à ce moment-là. On disait que c'est quelque chose d'extrêmement temporaire, que c'était lié au prix de l'énergie. On a vu à quelle vitesse, en fait, ça s'est accéléré en l'espace d'un an. Et ce qui est marquant aussi dans cette période, c'est qu'on a l'impression qu'on sort d'une crise sanitaire. on enchaîne avec une crise géopolitique, on arrive dans une crise économique. Et donc nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, notre clientèle, en fait, c'est la perte de repères. Et donc le rôle d'une banque régionale comme la nôtre, c'est bien sûr d'aider à comprendre, d'expliquer à nos clients ce qui se passe et aussi d'accompagner les plus fragiles pour faire face à cette augmentation de l'inflation. Donc on parle beaucoup de l'inflation au niveau de la population, on le constate aussi au niveau des entreprises de toute taille, des collectivités locales qui font face quand même à la montée des prix, qui font face à des pénuries. Et nous, en tant que banque, là, notre rôle est extrêmement central. C'est vrai qu'on avait, il y a 10 ans encore, tendance à beaucoup regarder les indicateurs économiques, les indicateurs financiers des entreprises qu'on finance pour comprendre leur activité. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec cet enchaînement de crises, ce n'est plus suffisant. Il faut anticiper les risques qui arrivent, il faut les accompagner et il faut aussi aller regarder d'autres critères qui sont des critères extra-financiers pour comprendre comment les entreprises sont capables de se transformer et comment elles vont pouvoir, justement, reprendre ce mot des GECO, comment elles vont pouvoir bifurquer aussi dans leur activité. Et notre rôle de banque, c'est de les aider à bifurquer pour aller vers autre chose.
Merci. Alors, je continue sur ce micro-trottoir, puisque c'est Emeline qui répond au français sur le deuxième thème, et je tiens à la féliciter. La question de l'Europe. Et l'Europe, pour la première fois, est partenaire des Journées de l'économie. Je vous signale que c'est un événement, je me suis battu pour ça, donc je suis très content que l'Europe soit avec nous. Je pense qu'entre l'Europe et les territoires, il y a l'impression qu'il y a une grande distance, mais est-ce qu'en fait, la construction européenne, elle n'est pas aussi partie prenante ici de ce qui se passe au niveau des territoires, la dynamique des territoires par rapport à l'État et à l'Europe? Est-ce qu'elle est si loin que ça de nous?
Alors, bonjour à chacune et chacun. Ce que les habitantes et habitants ne savent pas forcément dans leur quotidien, c'est qu'il y a du financement européen sur pas mal de choses, en particulier tout le socle physique qui nous permet la transition matérielle. On pense aux questions de mobilité, aux questions d'agriculture. Vous avez en tête les débats sur la PAC, par exemple. Et certains financements, l'Europe c'est ça, certains financements transitent par les collectivités territoriales. Je regarde ma collègue du Conseil régional. Et c'est bien sur la base de négociations avec les territoires. Donc on regarde leurs priorités. Et en général, la priorité des territoires, c'est d'assurer une réponse aux besoins quotidiens, le sujet de la quotidienneté des habitantes et habitants, donc se déplacer, se nourrir, se former, s'éduquer, prendre soin. Voilà, j'ai envie de répondre ça. Après, on a souvent l'impression d'une infinie distance entre le personnel politique européen et le personnel politique, la démocratie représentative territoriale, que ce soit les communes, les intercommunalités comme moi, la métropole ou les régions. Mais ça, c'est un autre débat, c'est le débat de la démocratie et c'est à part avec les initiatives citoyennes, quand on le droit de pétition, en gros le droit d'interpellation, ça c'est un autre débat qui fait partie des sujets socio-économiques, mais c'est pas le débat du jour. Donc pour accélérer la bifurcation, j'ai envie de dire à celles et ceux qui portent des projets, interpellez vos élus locaux pour qu'ils aillent chercher les fonds parce qu'il y en a. Et ensuite, n'oubliez pas, quand vous votez, que vous orientez aussi les décisions. Et je vais pas faire le débat de la PAC, mais vous savez que pour protéger le vivant et nos entreprises locales, il nous faut bifurquer aussi sur nos approches agricoles.
Merci beaucoup. Je me tourne vers Stéphanie Pernaud, qui est la première vice-présidente déléguée à l'économie et à la région, parce que cette question des régions par rapport à l'Europe, est-ce qu'il y a une Europe des régions, en fait, qui émerge derrière cette question européenne? C'est peut-être une manière de sensibiliser plus les Français, d'avoir l'impression que les régions entre elles, à l'échelle européenne, sont en relation?
Oui, alors, je pense pas vraiment qu'on puisse dire que les régions entre elles au niveau européen sont en relation. En fait, les relations, elles se font aujourd'hui sur des sujets notamment économiques. Et on a en Europe 4 grandes régions économiques qui se sont réunies il y a quelques années pour créer ce qu'on appelle l'Europe des 4 moteurs. C'est la Lombardie pour l'Italie, c'est la Catalogne, c'est évidemment la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis c'est pour l'Allemagne le Bade-Wurtemberg. Pourquoi ces 4 régions? Parce qu'elles ont un même territoire industriel, elles ont les mêmes orientations économiques de par leur existence sur les sujets économiques, de par leur activité économique et puis de par l'histoire qui les a finalement construites sur des sujets notamment industriels. Et ces 4 régions en Europe ce sont les régions qui sont phares dans la mise en œuvre de politiques publiques de développement pour l'ensemble des populations européennes. Aujourd'hui, ça reste, et ça a été dit tout à l'heure, quelque chose d'assez, pas secret, mais en tout cas technique, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément appréhendé par l'ensemble de nos concitoyens, pour plusieurs raisons, parce que l'Europe semble très éloignée. Deuxièmement, l'accès au financement européen se fait par l'intermédiaire de collectivités, donc il faut que vous soyez initiés à la chose. Et puis le troisième sujet, c'est que pour l'instant, l'Europe, mais c'est un choix des différents pays membres, n'a pas d'existence politique. Donc c'est compliqué de défendre une politique ou de porter une politique européenne quand l'existence même d'un conseil politique au sein de l'Europe n'existe pas. Alors c'est aussi un autre sujet, mais c'est pour ça que les régions entre elles, comme on le fait sur les quatre moteurs, se sont unies plutôt sur des sujets, des convergences notamment économiques, mais pas que, et portent ces sujets auprès évidemment d'autres nations dans le cadre des lobbying européens, et puis sur la place publique pour faire progresser l'ensemble des autres territoires. Il faut bien savoir que quand une région, quel que soit le pays où elle est, avance et produit, eh bien ça permet à l'ensemble des territoires qui sont à côté, qui sont beaucoup moins productifs, d'avancer aussi et finalement de servir à tout le monde, quel que soit l'endroit où vous pouvez vivre ou la région dans laquelle vous avez décidé d'habiter.
Merci beaucoup. Vous avez remarqué que la question des territoires est très présente cette année autour de du problème de la bifurcation. Je pense que les bifurcations qu'on doit connaître, les territoires sont des acteurs importants et on y reviendra sur plusieurs sujets pendant les trois jours. Je vous propose qu'en fait, qu'on puisse regarder peut-être le deuxième micro-trottoir. Le premier, vous le verrez en ligne, je vous le promets.
Ben, on est plus responsable, plus éco-citoyen.
Ça fait une dizaine d'années qu'on n'a plus vraiment de saison, qu'il y a de l'été en automne, en hiver.
Monétaire, parce que moins de denrées fait que tout augmente.
De chez moi, je peux voir le nuage de pollution sur tout Paris, donc ça, c'est un petit côté glauque. Hein.
Au mois d'octobre, en tout cas, au moins je fais des économies de chauffage.
Quand on peut ne pas prendre l'avion, on ne prend pas l'avion.
Je prends pas ma voiture.
On a des conditions de travail qui ne sont pas très agréables.
La population, le gouvernement, tout. C'est les sociétés, c'est les politiques, c'est tout le monde.
Que ce soit des politiques ou autres, il faut vraiment que tout le monde le fasse, sinon on n'avancera pas.
Enfin, le monde entier, vu que c'est dans tout le monde que ça se passe.
Pour moi, c'est plus les grandes entreprises qui causent la pollution.
Bah, les institutions politiques.
Que tout le monde s'y mette. Jusqu'en haut.
Et oui, c'est les acteurs, hein, les premiers d'ailleurs.
Oui, elles ont forcément un impact réel.
Ben, je pense, oui, effectivement.
Les banques centrales, c'est elles qui fixent les taux directeurs. Donc elles peuvent jouer sur l'offre du crédit en ajustant la valeur du crédit. Plus les taux sont chers, plus c'est difficile d'emprunter. Et donc plus ça ralentit à la fois l'économie pour les entreprises et pour les ménages.
Elles peuvent carrément agir parce que c'est eux qui ont le pouvoir de changer ça aussi.
Elles ont un rôle direct à jouer dans le contrôle de l'inflation.
Elles peuvent agir sur tout.
À l'INSEE, je pense que c'est important parce qu'ils font des études.
Et on a besoin des chiffres pour avoir un début de dialogue.
C'est eux qui font un peu la pluie et le beau temps, quoi.
En fait, ce qu'il faudrait, c'est sortir du bois, être beaucoup plus proche des entreprises, beaucoup plus proche des citoyens, expliquer dans quelle mesure la politique, notamment de la Banque de France, ou les statistiques de l'INSEE peuvent être utiles pour la vie quotidienne des gens.
Réguler l'argent, dire les dépenses.
Ben, les conséquences économiques du réchauffement climatique, de l'inflation, de la guerre en Ukraine.
L'écologie.
Tout ce qui change. Ne pas faire passer des lois pendant qu'on dort ou qu'on est en vacances.
Justement, l'écologie.
Sur les avancées, les choses positives.
Les lois qui sont votées actuellement.
Sur ce que fait le gouvernement, quoi.
Arrêter d'être individuel et se concentrer sur le collectif de tout le monde.
Eh ben, essayer de mettre en place des actions de solidarité entre tout le monde, à tous les niveaux.
De politique énergétique, hein, tout simplement.
Plus de communication au niveau des quartiers aussi, où les gens sont là.
Donner des cours de citoyenneté.
Les banques sont très légitimes pour intervenir dans la lutte contre le changement climatique parce que leur mandat, c'est la stabilité des prix. Or, le changement climatique va fortement impacter l'inflation et la croissance, par exemple le prix des denrées alimentaires ou le prix de l'énergie. Elles sont aussi légitimes parce que le changement climatique va être source de risques financiers pour les banques, pour les assurances. Pour les banques également, elles peuvent prêter à une entreprise ou faire financer un investissement qui se révélera finalement non profitable en raison, par exemple, de changements des normes climatiques. On l'a vu, par exemple, dans le secteur automobile. Donc nous, à la Banque de France et à la CPR, nous avons décidé d'agir dans trois domaines. Premièrement, augmenter vraiment la prise de conscience, l'explication. Et nous avons lancé et animons le réseau mondial des superviseurs et des banques centrales pour le verdissement du secteur financier, plus de 120 membres avec lesquels nous partageons les meilleures pratiques. Deuxièmement, nous améliorons la connaissance de ces fameux risques financiers avec les banques et les assurances en ayant une démarche prospective et en utilisant des scénarios climatiques. Et troisièmement, nous cherchons à nous appliquer à nous-mêmes toutes ces recommandations. Nous travaillons avec la Banque Centrale Européenne pour verdir la politique monétaire. Nous regardons comment intégrer les conséquences du changement climatique dans nos prévisions économiques, dans nos projections économiques. Et puis, nous le prenons en compte dans notre démarche d'investisseurs responsables. Et là, c'est un rôle clé pour les gouvernements de définir la feuille de route de transition climatique et écologique. Mais toutes les institutions publiques ont leur rôle à jouer dans leur secteur d'activité. En particulier, nous, Banque Centrale, nous sommes là pour accompagner l'ensemble du secteur financier dans cette transition écologique. Mieux faire comprendre le monde dans lequel nous fonctionnons et ses évolutions très importantes, c'est aussi accroître la confiance dans notre monnaie, qui est bien sûr la clé de notre mission.
Écoutez, il y a beaucoup de points qui sont abordés hein, par les Français sur ces questions ici. Alors, quand on commence par parler de l'environnement, on voit que les Français sont très sensibles à la question environnementale. Hein. Il y a eu un sondage du Crédoc qui montre que 84% des Français pensent que c'est quelque chose qui pour nous est aussi important que la pandémie, par exemple, et qu'il faut faire les mêmes efforts pour l'environnement. Et quand on parle des efforts, c'est là où je suis tenté d'aller vers Jean et l'économiste, c'est qu'il va falloir parler de taxes, de règles, de prix. Et sur ces points-là, il y a beaucoup moins d'enthousiasme de la plupart des Français. Comment on peut faire ?
Oui, Pascal, oui, tout à fait. Il y a un problème de perception du public vis-à-vis. Bon, c'est une très bonne nouvelle que les gens soient aussi conscients du risque qu'on court, mais... d'un autre côté, il faut aussi réaliser que ça va coûter quelque chose. D'ailleurs, en général, on essaie de déguiser ça. Vous inquiétez pas, il y aura une croissance verte, on va voir le beurre et l'argent du beurre, etc. La vérité, c'est que ça va coûter quelque chose. Et donc, sinon, on l'aurait déjà fait. Et donc, il faut absolument qu'on réalise ça. Et quand on regarde les perceptions, ce qu'on avait fait pour le rapport avec Olivier Blanchard, c'est exactement la même chose que ce micro-trottoir et que les différents sondages. C'est-à-dire que les gens disent qu'il faut faire quelque chose, mais pas moi. Et donc, ça crée problème. Aussi, il y a d'autres problèmes de perception. Donc, par exemple, ils sont absolument, pratiquement tout le monde est contre une taxe carbone. Mais par contre, les gens sont pour des subventions, ou au moins sont neutres vis-à-vis des subventions. Il y a des tas de subventions à l'environnement, ce qui est une bonne chose, mais seulement, il ne faut pas oublier qu'une subvention, c'est une taxe. Et donc, il faut réfléchir aussi comment, pourquoi, d'une certaine manière, une taxe carbone qui fait à peu près consensus chez les économistes dans le monde entier est aussi impopulaire dans le monde entier. Alors, il y a des raisons pour ça, c'est-à-dire qu'on peut la faire beaucoup mieux. Hein. On discute dans l'ouvrage avec Olivier Blanchard en particulier de ce sujet, que ça soit pas un gruyère, qu'il y ait une compensation pour les plus démunis, bien sûr. Parce que c'est régressif, comme d'ailleurs la plupart des politiques écologiques sont régressives. La voiture électrique, les photovoltaïques, etc., ça ne bénéficie pas essentiellement aux citoyens les plus pauvres. Et c'est comme ça, mais il faut compenser effectivement et faire attention à la distribution des revenus. Il faut plus de stabilité dans les prix, il ne faut pas faire que les prix du carbone fassent le yo-yo comme ça s'est passé, et beaucoup d'autres choses. On peut faire beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait ce sentiment citoyen qu'on aura tous quelque chose à faire, on aura tous quelque chose à payer. Évidemment, on veut que ça soit équitable, mais si on commence à dire que 90% des Français ne devraient pas avoir à payer pour le réchauffement climatique, pour contrecarrer le réchauffement climatique, on n'arrivera nulle part. De même, la même chose arrive au niveau international. Au niveau international, je comprends tout à fait l'énervement des pays émergents, les pays pauvres, qui disent « vous avez pollué, vous, les pays riches, et maintenant vous nous demandez d'avoir un prix du carbone ». Et ça, je comprends tout à fait leur point de vue, c'est normal. D'un autre côté, il faut qu'ils aussi qu'ils réalisent que la pollution va venir essentiellement des pays émergents, et donc la planète est condamnée si effectivement ces pays pauvres eux-mêmes ne font pas les efforts qu'il faut. Donc de nouveau, il faut une certaine compensation.
Merci Jean. Emeline, je pensais, peut-être en lien avec ce que vient de dire Jean, justement, c'est un peu quelle est la place des citoyens dans cette stratégie de transition environnementale?
En fait, le citoyen, il a plusieurs rôles et puis ça dépend aussi des moments de sa vie, l'habitante, l'habitant. Souvent, et Jean Dirol l'a abordé, on pense consommation. L'habitante, l'habitant n'est pas qu'un consommateur. Certes, il doit répondre à ses besoins essentiels. Donc on peut faire des choix, on fait des arbitrages quand on consomme. Encore faut-il le pouvoir, et ça a été dit en particulier par l'intervenant de la Caisse d'épargne, c'est de se dire on n'est pas tous sur un même pied d'égalité. Quand on est habitante-habitant, on peut être salarié ou entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir d'agir, d'apporter des solutions. Comme tu le disais, on est quand même beaucoup dans un moment territoire. Moi, je parle depuis une collectivité territoriale où tous les jours, je rencontre des hommes, des femmes, des jeunes, des gens en reconversion professionnelle qui agissent au quotidien dans leur quartier, dans leur commune, dans leur centre-bourg, centre-village, pour allonger la durée de vie, pour remanufacturer, pour reconditionner, pour transformer les pratiques culturelles, pour éduquer aux usages du numérique, pour accompagner des hommes et des femmes dans l'insertion sociale et professionnelle avec des nouvelles approches. Je pense que dans le micro-trottoir, c'était dit, communiquer sur les choses positives. Communiquer sur les choses positives, c'est pas faire du greenwashing ou du social washing, c'est admettre qu'ici et maintenant, il y a des hommes et des femmes qui agissent soit parce qu'elles ont été incitées à, peut-être parfois avec de l'accompagnement de collectivités territoriales, ce qu'on disait tout à l'heure, avec des subventions, parfois, mais pas toujours. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas que lanceurs d'alerte, qui se lèvent et qui font, qu'on retrouve dans des dynamiques collectives du type Impact France, qui sont au centre des jeunes dirigeants, qui sont dans des mouvements de l'économie sociale et solidaire. On est dans le mois de l'ESS, ça je voulais l'amener aussi. On peut aussi être habitante, habitant, et être dans un moment de transmission de sa vie. J'insiste aussi là-dessus, on est dans une pyramide des âges particulière, en tout cas sur notre territoire, dans le monde socio-économique, où on a beaucoup d'artisans, de TPE, PME, qui sont à des moments où ils doivent transmettre leur outil de production. Ma collègue vice-présidente à la région parlait de production, d'activités productives. On a en tête que pour tenir la neutralité carbone, on doit produire, réparer ici et maintenant, s'organiser, organiser les chaînes de valeur à l'échelle européenne. Et ça, ça va se faire avec des artisans, des hommes et des femmes qui vont transmettre leur savoir-faire, qui vont garder leur capacité de production, donc avoir des machines. Et ça, c'est un message que je veux envoyer aux hommes et aux femmes qui n'ont pas forcément envie d'anticiper cette transmission, soit à leurs salariés, soit à un jeune qui n'a pas forcément en tête d'entreprendre, de se dire voilà, on est là au rendez-vous. Et je voulais vraiment insister sur le fait qu'un habitant, une habitante n'est pas qu'un consommateur, ça peut être tout simplement un acteur, un faiseur, un constructeur, un réparateur ou une réparatrice, mais on a besoin de vous ici et maintenant, et pas uniquement dans votre capacité d'interpellation, pas uniquement dans votre capacité à voter pour les élections locales, nationales, européennes.
Merci. Il y a au moins une grande question derrière cette transition environnementale, c'est comment on va la financer. On attend quand même beaucoup de choses des banques. Il n'y a pas toujours une grande confiance envers la finance. Or là, il va falloir le faire ensemble. Est-ce qu'il y a des initiatives concrètes qui se dégagent aujourd'hui pour le réaliser ?
Oui, effectivement, le monde bancaire est très attendu dans cette transition et on voit qu'on est nous-mêmes soumis à un risque climatique. Hein, l'intervenant de la Banque de France l'a bien souligné. Et je pense que la banque, en fait, a un double rôle à jouer. Tout d'abord, elle a un rôle d'accompagnement dans la prise de conscience Donc toutes les entreprises ne sont pas au même point dans la prise de conscience de la transition qui arrive. Il y en a qui sont certainement déjà très avancées, d'autres qui le sont moins. Et donc en tant que banque, il faut ouvrir ce dialogue-là sur les investissements à venir. Ensuite, il y a effectivement le rôle de financement. Et donc là, on rentre dans l'action avec un exemple très concret. C'est sur la rénovation énergétique aujourd'hui des bâtiments et des logements. Il y a des lois contraignantes qui arrivent à partir de 2023 sur les passoires thermiques. Donc on sait aujourd'hui que nos clients vont avoir besoin de rénover leurs bâtiments, leurs logements pour pouvoir continuer à les louer, pour continuer à les habiter. Donc là, le rôle de la banque est extrêmement concret. Tout d'abord, c'est de leur proposer des dispositifs de financement qui sont adaptés à cette rénovation énergétique. Et dans un deuxième temps, de les mettre aussi en relation avec les acteurs spécialisés du territoire de la rénovation énergétique. Je pense par exemple au dispositif France Rénov, pour qu'ensuite ils puissent se lancer dans cette rénovation énergétique. Donc un rôle clé aujourd'hui des banques dans le financement de la transition.
Merci. J'étais en train de regarder en même temps les questions que vous posez, et justement adressées à la région, il y avait la question qu'est-ce qu'il en est des fonds structurels qui sont mobilisés. Et en fait, peut-être derrière, une autre question plus fondamentale, c'est la confiance un peu des citoyens dans la démocratie. C'est-à-dire, on a des institutions qui agissent, qui essayent de faire un certain nombre de choses. Je ne sais pas si on en a tous connaissance au moment où ces actions sont engagées, mais on voit bien qu'il y a une crise de confiance et qu'il va falloir absolument, pour réaliser la transition, ou ce que moi j'appelle la bifurcation, qu'on arrive à créer une certaine crédibilité dans ce qu'on fait. La notion de crédibilité en économie, on sait ce que c'est, c'est souvent utilisé. Et je pense qu'au niveau politique, ça va être important. À votre avis, là, c'est pour ça que je parlais des territoires tout à l'heure, la région joue un rôle important dans cette forme de démocratie.
Oui, alors après, si on fait un constat assez froid sur l'état de la démocratie en France, on l'observe à chaque élection. Voilà, et donc on se rend compte que c'est pas tout à fait satisfaisant pour tout le monde. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet de responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que quand on s'exprime à l'occasion d'une élection, on s'exprime pas une fois pour toutes, et puis on attend que les choses se passent. Il faut aussi avoir un véritable intérêt pour les politiques publiques qui sont construites. C'est difficile en France, on a beaucoup de collectivités, on a beaucoup d'empilements de compétences, et c'est très difficile de s'y retrouver, et je pense que c'est à nous, pour le coup, élus, de faire un effort de montrer les politiques publiques qu'on met en œuvre avec les gens dont on a la responsabilité. À la région, on a les responsabilités des lycées. On essaye de faire passer des messages aux lycéens par l'intermédiaire du Pass Région, par exemple. On leur propose de s'engager, on leur accorde des bourses au mérite s'ils s'investissent dans des associations ou s'ils font des actions envers les autres. C'est un moyen de montrer à quoi servent les politiques publiques. Et puis après, si on reste sur le sujet de fond, qu'est notre capacité ou pas demain à se mobiliser, notamment sur des sujets écologiques, la réalité, et je pense qu'il faut qu'on se le dise à un moment donné, c'est que je pense qu'aucun de nos concitoyens a décidé en se levant le matin d'être un pollueur. Donc chacun individuellement fait de vrais efforts. De la même façon que nos entreprises, les chefs des entreprises et même industriels, leur sujet, c'est pas de se dire « est-ce que je vais polluer la planète aujourd'hui ?» Donc ça, c'est une réalité qui existe. Et en France, on est plutôt d'ailleurs exemplaire par rapport à d'autres pays. La vérité aujourd'hui, c'est que le sujet, il est beaucoup plus important et beaucoup plus global, soit au niveau européen, soit au niveau mondial, comme ça l'a été dit tout à l'heure. Et c'est là où les politiques publiques doivent montrer le chemin et évidemment souvent prendre des décisions complexes parce que ça coûte de l'argent. Et parce qu'à un moment donné, il faudra changer à la fois nos modes de consommation et notre capacité à envisager peut-être de travailler ou de vivre tout simplement. Mais moi, je ne suis pas du tout favorable à la punition ou à la capacité de dire ce que vous faites, c'est pas bien, il va falloir changer pour faire mieux. La réalité, c'est que je crois qu'individuellement, on est tous conscients qu'on vit sur une planète qu'on espère le plus en forme possible pendant très longtemps. Et la réalité, c'est que chacun dans notre coin en fait quelque chose. Maintenant, l'enjeu, ça va être de savoir si les pays, parce que ça se joue quand même au niveau national, sont en capacité de proposer des solutions qui permettent d'avoir une vraie action au niveau mondial sur l'impact, évidemment, de nos activités sur l'environnement. Et je ne suis pas persuadée qu'en France, on soit les derniers, en tout cas les plus mauvais acteurs sur ce sujet-là. Et de temps en temps, c'est pas mal aussi de se le dire, parce que le sujet, il est un peu plus éloigné de nous, mais il est, je pense, au cœur des préoccupations de chacun de nos concitoyens, sur un sujet peut-être environnemental, mais aussi sur des sujets de pouvoir d'achat qui, évidemment, aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, sont très liés. Et ça, c'est aussi important de le dire, et ça boucle la question que vous aviez sur la démocratie. Plus vous vous sentez investi et intégré aux décisions de politique publique, plus vous avez envie de vous intéresser à ce qui se passe autour de vous.
Oui, bah, merci. C'est vraiment, je pense, une question qui est centrale pour nous. Quand on regarde cette question de transition environnementale, souvent on fait le parallèle avec ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, où d'un côté on vous mettait des contraintes, hein, il y avait le masque, il y avait le confinement, il y avait la vaccination, et puis l'exigence de liberté, le doute envers les experts, c'est des tas de choses qu'on va aborder pendant les journées de l'économie. Et quelque part, c'est comment on trouve le chemin étroit pour faire cette transformation, où on doit osciller entre la contrainte et la liberté. Et dans les contraintes, il y a les taxes. Et là, j'ai une question pour Jean. C'est, mais en quoi la taxe carbone est une bonne chose ?
C'est difficile de défendre la taxe carbone, parce que ce n'est pas une taxe très, très populaire, bien sûr. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles la taxe carbone est une bonne chose. D'abord, ça donne des incitations. On voit très bien que depuis 30 ans, on n'a pas fait grand-chose pour le climat. Alors, on fait des petites actions, il faut sensibiliser les gens, etc. On fait tous des petites choses, mais enfin, en gros, on a encore notre mode de vie qui est resté le même, parce qu'évidemment, on ne paie pas pour ce qu'on fait au climat. Et donc, ça, c'est très grave. Donc, il y a cette incitation qui est centrale pour les économistes, bien sûr. Il y a la simplicité de la chose aussi. Il y a la simplicité de la chose. C'est-à-dire que, moi, je me pose toujours la question... Je donne toujours le même exemple, mais est-ce que quand je vais au marché et que j'achète des tomates, est-ce que je dois acheter des tomates de la région ou est-ce que je dois acheter des tomates qui viennent de l'Espagne ? Bon, bah, c'est bien, de l'Espagne, il y a du transport, mais de la région, c'est peut-être sous serre, j'en sais strictement rien, honnêtement, je ne connais pas du tout les chiffres et combien ça coûte. Quand vous avez une taxe carbone, tout ça, c'est inclus. La chaîne de valeur a tenu compte dans le prix de tout ce qu'on a fait contre le climat, d'une certaine manière. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis ça incite aussi les innovateurs, parce qu'on manque énormément d'innovation verte, hein, ça il faut bien le comprendre, on n'a pas assez, on dépense pas assez d'argent pour l'innovation verte, donc il faut faire un certain nombre de choses. Dans le rapport avec Olivier Blanchard, on avait proposé une sorte de DARPA à l'européenne pour l'énergie, au niveau européen, avec une bonne gouvernance. On en est très 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 loin de faire ce genre de choses. Mais il faut, de façon générale, il faut aussi que ceux qui font de l'innovation verte puissent monétiser, autrement ils ne peuvent pas emprunter aux banques, etc. Donc on s'est habitué à ne pas avoir de prix de carbone. Donc qui va acheter une innovation verte ? Personne. Et donc si on veut monétiser les innovations vertes, ben, il faut aussi un prix du carbone. Donc tout ça fait qu'il faut un prix du carbone, mais ça ne suffit pas. C'est très, très, c'est ça aussi l'erreur qui a été faite. Ça suffit pas. Il faut aussi beaucoup d'autres politiques qu'on pourrait discuter, mais c'est très important. Et associer les citoyens, vraiment, c'est crucial. Je ne le ferai pas comme on l'a fait pour la Convention citoyenne pour le climat, pour être honnête. Je ne sais pas si on a 2 minutes pour parler de ça, mais d'abord, on est dans une démocratie représentative. Ce n'est pas à des citoyens de tirer au sort de décider de la politique publique. Ils peuvent être concertés et discuter. Alors, je sais bien qu'ils sont plus intéressés, du coup, ils sont plus motivés, parce qu'on leur dit, c'est vous qui décidez, mais ça pose un problème vis-à-vis de notre démocratie, quand même, que des citoyens tirent au sort, fassent ça. Alors, ça se faisait à Athènes, ça se fait dans un certain nombre d'expériences. Actuellement, c'est intéressant. Je pense que les citoyens devraient être beaucoup plus associés aux décisions, sous forme consultative, au minimum. Mais ce tirage au sort athénien, d'une certaine manière, pose problème, quand même, parce que c'est un échantillon quand même biaisé, bien que ça soit représentatif, c'est quand même biaisé parce que c'est des gens qui, effectivement, sont intéressés, ce qui est une bonne chose, c'est ce qu'on veut, mais qui sont prêts à consacrer un certain nombre de week-ends, qui sont prêts à faire des choses pour essayer de comprendre mieux le sujet, mais aussi qu'on a à s'arranger souvent. Moi, je vais faire un peu de provocation, je suis un peu là pour ça aussi, mais imaginez qu'on ait une convention citoyenne pour le vaccin et que tous les anti-vax se soient motivés et acceptés de participer et de passer tout leur week-end à ça, et puis les autres, finalement, disent oh, « bon non, c'est pas pour moi ». Et là, on voit très bien quelle aurait été la politique publique, on ne serait pas ensemble aujourd'hui dans cette salle. Donc ça, c'est le genre de choses, il faut quand même faire très attention, et puis il faut poser les bonnes questions. C'est-à-dire, c'est trop facile de dire « moi, j'aimerais bien X, Y, Z », Mais si on ne fait pas, comme ça se fait dans d'autres pays, reprenons le budget régional, reprenons le budget municipal, qu'est-ce qui va sauter? On va financer ça, qu'est-ce qui va sauter? Maintenant, discutons en tant que responsable politique. C'est trop facile de se moquer des politiques, de dire, ils ne font pas leur travail, etc. Mais les politiques, ils ont à faire des choix. Souvent, dans ces organes délibératifs, consultatifs, pardon, on n'a pas les choix. Moi, j'aimerais bien avoir ça. Et puis, qu'est-ce qu'on supprime? Donc ça, c'est vraiment important. Il va falloir reconcevoir. Je suis entièrement d'accord qu'il faut plus d'implication des citoyens. Ça me paraît très important. Mais en plus, il ne faut pas le faire n'importe comment.
C'est un sujet, d'ailleurs, qu'on abordera avec Stéphanie Stankeva, puisque c'est une des spécialistes. On en parlera le troisième jour. Vous verrez, c'est absolument passionnant parce qu'il existe en fait des solutions pour impliquer les citoyens. Donc ça prolongera exactement ce que Jean vient de nous dire. J'ai pas mal de questions sur « et qu'est-ce qu'on fait pour les plus défavorisés ?»
Je prends la question, mais parce que je vous dis d'où je parle. La métropole de Lyon, c'est aussi un département, c'est assez particulier. Et les départements, je ne sais pas si vous le savez, mais ils portent ce qu'on appelle les politiques publiques locales sociales, donc l'accompagnement aux personnes en situation de handicap, le vieillissement de la population, mais aussi les questions d'insertion, donc les hommes et les femmes qui sont en parcours de RSA. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour les plus précaires, quels que soient les territoires? On a une responsabilité en France, hein, je rappelle que dans notre devise, il y a égalité et fraternité, on a un devoir de dignité, en tout cas, donner toutes les conditions aux habitantes et habitants pour vivre en dignité, donc le sujet du logement. Le sujet de l'alimentation, et puis ça passe souvent par un sujet emploi. Localement, on porte des dynamiques en se disant que, par exemple, quand il y a des, entre guillemets, trous dans la raquette, on aime bien cette expression-là dans les politiques publiques, eh ben, on expérimente. Vous êtes sur un territoire où, au regard de certains manques, pour répondre à la dignité des jeunes, on a créé le revenu de solidarité jeunesse, qui n'est pas un chèque en blanc, qui est une forme d'accompagnement avec un niveau d'allocation pour permettre aux jeunes de rester debout et du coup soit d'aller vers de la formation trop, de la formation pro CF, le conseil régional, ou d'aller dans l'emploi. On est dans un territoire où le logement, l'habitat, c'est très compliqué. Je voulais aussi rebondir tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qu'on fait pour les plus précaires? Peut-être que quand on n'est pas dans un territoire et qu'on est à l'échelle nationale ou européenne, de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue d'une femme élue engagée, il y a un sujet quand même de se dire qu'est-ce qu'on sort du marché, qu'est-ce qu'on met en commun, et sur le sujet de la taxe carbone, et qu'est-ce qui a un coût, ce qu'on ne devrait pas toucher. Tout à l'heure, j'ai spontanément parlé de l'agriculture. On a un sujet sur l'eau, parce que, comme le disait Stéphanie Pernaud-Godon, peut-être qu'en France, on n'a pas à rougir de ce que font les acteurs économiques. Sans doute que dans les pays du Sud, les acteurs économiques ont moins les moyens, parce qu'il n'y a pas de réglementation sociale et environnementale, de mesurer, de piloter leur émission carbone, entre autres. Ceci étant dit, on est dans un territoire où il y a un sujet de l'eau. Voilà, on a fait le choix ici de repasser tout en régie publique. Mais voilà, se dire l'eau, ça fait partie des communs, l'air, ça fait partie des communs. Et comment on fait justement pour que, quel que soit mon pouvoir d'achat, mon niveau de vie, j'y ai accès en qualité et en quantité? Et comment on régule? Et où se trouve la régulation? Est-ce que c'est à une échelle territoriale de proximité? Est-ce que c'est à l'échelle nationale? Est-ce que c'est à l'échelle européenne? Et pour moi, c'est ça le vrai sujet. Après, répondre à la dignité des habitantes et habitants, ça se joue, ça se pilote en proximité, parce que comme la vice-présidente de la région le disait, en fait, assez spontanément, un habitant, une habitante qui a de la difficulté et qui a le courage de se lever et d'aller parler à quelqu'un, il va éventuellement voir son maire, parfois voir son élu de proximité, son élu de quartier, qu'il soit région, métropole, arrondissement, peu importe, mais il a un interlocuteur et c'est l'interlocuteur de proximité. Après, charge à l'interlocuteur de proximité de porter du plaidoyer pour que les politiques se complète bien et assure cette dignité. Et donc, je rejoins le sujet de l'équité et de la justesse.
Merci. Une question d'André Ajos. Là, on parle beaucoup de finances solidaires dans les questions que j'ai. Est-ce qu'il faut donner une place plus importante à la finance solidaire? Comment ça s'articule avec la banque traditionnelle? Alors, en une minute.
En une minute. Alors, je pense qu'il y a aussi l'historique de chaque banque. La Caisse d'épargne a quand même une histoire de financement de l'économie solidaire. C'est un marché qui est très important au sein du Caisse d'épargne. Donc, effectivement, nous, en tant que banque universelle, on sert tous ces publics-là. Après, c'est une volonté extrêmement forte d'être présent auprès de cette clientèle, de cette clientèle-là.
Je vais terminer avec un appel au secours. Visiblement, dans les messages, c'est le lycée Jean Monnet d'Annemasse qui nous dit qu'ils sont dans une passoire thermique, qui appelle au secours la région. Or, pourtant, j'ai l'impression que la région vous fait des efforts énormes en la matière. En tout cas, le lycée d'Annemasse vous attend.
Je les remercie. C'est la démonstration de ce qu'a dit Jean Tirole. On a construit, je crois, depuis 2015, 13 lycées et on en a rénové d'autant. On a mis 1 milliard d'euros d'argent public dans la rénovation des lycées depuis 2015. Oui, on a encore des lycées qui sont des passoires thermiques, je vous le confirme. Et cette année, ça va nous coûter 170 millions d'euros pour passer l'hiver. Et la question, c'est à qui on va les prendre, parce qu'il est hors de question que les lycéens soient dans des lycées à 12. Alors, merci de l'interpellation, et je vous assure que chaque jour, on fait ce qu'on peut, et qu'Annemasse n'est pas oublié et traité de la même façon que les autres lycées, mais la réalité à la fois financière et d'action, aujourd'hui, elle est déjà 1 milliard d'euros, ce qui est très important, et on a beaucoup de chance d'être dans une région riche. Quand je dis riche, c'est d'activité économique, pour pouvoir permettre ces différents investissements dans nos établissements. Mais je n'oublie pas Annemasse.
Merci. Désolé un peu du contexte dans lequel on a fait cette ouverture. Je fais juste la transition avec la grande conférence qui va commencer. Il y a deux ouvrages qui viennent de paraître, et comme j'ai plus de salon du livre, j'adorerais avoir un salon du livre et vous emmener voir les ouvrages. Eh bien, j'en profite, c'est moi qui vais faire un petit salon du livre très réduit. D'abord, il y a le livre d'Olivier Blanchard et de Jean Tirole, qui est un livre collectif, vraiment, que je vous recommande, qui est à partir de leur rapport. Ça s'appelle « Les grands défis économiques » et c'est aux Presses universitaires de France. Je pense que beaucoup des sujets qu'on va traiter pendant les trois jours sont abordés dans ce livre-là. Et puis, vous allez avoir Alexandra Ben Saïd qui va animer la première grande conférence, qui, avec toute son équipe de l'émission que vous connaissez forcément de France Inter, vient de publier « On n'arrête pas l'économie ». Et alors, pour tous les collègues qui vont m'en vouloir beaucoup de ne pas avoir cité leur livre, je vous dis que dans le magazine DGECO, vous avez tous les ouvrages des intervenants. Et un jour, si vous avez vraiment envie à nouveau de retrouver les livres d'économie, vous le demandez très fortement et ça me permettra de recréer le salon du livre. J'en rêve. À suivre.